Quel mot terrible, angoissant, dans ce passage de Luc. Je cite des signes, l'angoisse des nations, les humains rendront l'âme de terreur. Oui, vous avez bien entendu. Nous y sommes. Oui, ce texte de Luc est bien ce qu'on appelle le texte du jour dans la tradition chrétienne. Et nous l'avons préparé avant des événements que vous connaissez. Et il nous a fortement interrogés, tant l'évocation est violente, et puis soudain, actuelle. Une certitude. Les textes des évangiles de l'Apocalypse s'inscrivent tous dans une tradition juive, puis une tradition judéo-chrétienne des Apocalypses. Ce texte de Luc que nous avons l'occasion d'aborder ce matin a une particularité à mon sens, à notre sens, c'est qu'il propose une sorte de paradoxe. D'une part, il est effrayant et noir dans l'évocation d'une fin du monde programmée. D'autre part, il est apaisant et lumineux dans les injonctions, dans les paroles que Yeshua, Jésus, le prophète de Nazareth, nous adresse. Redressez-vous, levez la tête, ayez la force de vous tenir debout. Alors, découverte étonnante, en fait, d'un message adressé de façon précise à la communauté judéo-chrétienne du 1er siècle, il y a donc 20 siècles, dans un temps qui n'est plus le nôtre, et qui cependant nous parvient aujourd'hui avec une présence toute particulière. Alors, aborder ce texte aujourd'hui exige, je crois, que l'on cerne d'abord les circonstances et le contexte dans lequel ces paroles apocalyptiques ont été prononcées. La fin des temps, et tout ce qui s'y rapporte, qu'on appelle aussi eschatologie, est inscrit dans la culture juive et les textes juifs de la loi. On en trouve des échos dans le Pentateuque et dans les livres qui évoquent les souffrances et les problèmes et les difficultés du peuple juif, en particulier dans le livre des Maccabées, qui, comme par hasard, inspira fortement les révoltés huguenots camisards au début du XVIIIe siècle. En fait, la question est simple, à la fois humaine et théologique, mais simple. Qu'y a-t-il après notre disparition, qu'elle soit individuelle, collective? La réponse donnée par Jésus, Yeshua, est en fait une forme d'espérance. L'espérance, je cite. Alors, on verra le Fils de l'homme sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Mais l'homme, les hommes que nous sommes, l'homme est pétri d'inquiétude et d'angoisse devant les menaces multiples. Il est confronté au désespoir et à la terreur de l'anéantissement. Aussi, dans ce contexte, les paroles de Jésus résonnent aujourd'hui comme une formidable raison d'espérer, comme une formidable espérance. En effet, voilà donc la promesse d'un retour du Fils de l'homme, certain, proche, un retour inscrit dans l'histoire. Il est alors donc vital de rester en alerte pour ne pas manquer le coche, pourrait-on dire, le jour où cela se produira. Je cite. Restez donc éveillés, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Cette tradition, cette perception a traversé les siècles, bien que ces choses, c'est le terme biblique, ne se soient jamais produites. Combien de générations, elles aussi, ont espéré en vain en une soudaine délivrance qui libérerait de la destruction programmée qui délivrerait de l'anéantissement. Par exemple, ces communautés huguenotes qui, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, espérèrent follement que le roi Louis XIV, le roi très chrétien, allait revenir sur cette décision et rétablir la liberté de conscience. C'était certain, des prédictions, dont celle du pasteur Jurieux, qui était en Hollande, annonçaient des dates. C'était 1689, puis 1701. Bien sûr, rien ne se produisit. Que rien ne se produise aujourd'hui nous semble peut-être évident. Mais je vous invite à penser, par exemple, à ce qui s'est passé, je crois, en 2012. Le 22 décembre 2012, il devait se produire quelque chose. Pensez aussi à ce qui a précédé l'an 2000, sans remonter à l'an 1000. Alors, la lecture qu'on peut faire de ce passage est une lecture pour un temps du passé, pour un temps dépassé. Car nous savons maintenant de science certaine que la résurrection du Seigneur ne s'inscrit pas dans une chronologie historique, mais simplement, profondément, dans notre vie, dans la vie. La résurrection, et c'est le message d'Évangile d'aujourd'hui, c'est justement aujourd'hui. Nous vous invitons donc à une lecture autre de ce passage, tout autre, à partir de ces injonctions fortes et claires que l'on entend au verset 36. Restez donc éveillés, priez en tout temps, ayez la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez éveillés, ce sujet à la fois théologique et profondément humain, a fortement interrogé les esprits au moment de la Réforme, au XVIe siècle. Rester éveillé, est-ce uniquement une question de volonté, de choix humain, assumé, comme l'affirmait le grand humaniste Erasme ? Rester éveillé, est-ce, comme le propose Luther, l'auteur, est-ce l'effet de la seule grâce, de la lumière que Dieu met en nous et qui nous demande d'être debout? À notre sens, dans ces jours d'angoisse et d'inquiétude que nous vivons, peu importe la réponse. Rien ne nous dispense d'une démarche consciente, active. Rester éveillé, en effet, c'est la volonté de connaître, de s'informer pour savoir, pour voir clair. Cela n'est pas facile. Tant l'information dont on nous abreuve est difficile à déchiffrer, tant elle est simpliste, caricaturale parfois. Parfois aussi, nous refusons en fait de rester éveillés. Par peur peut-être, par indifférence, qui sait ? Et on peut reprendre l'expression d'une boutade des deux, mon général. Je vous propose un exemple puisé dans un passé finalement tout proche. Avril 1945. Le camp de concentration de Buchenwald, comme vous voulez, de sinistre mémoire, fut libéré par les troupes américaines. Buchenwald est à 10 km de Weimar, au lieu historique et culturel européen. Les habitants allemands de Weimar sont contraints par les troupes américaines d'occupation de visiter, avec des guillemets, le camp et ses baraques. La plupart des visiteurs ont affirmé, sans doute de bonne foi, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait derrière les barbelés. Pourtant, à longueur de journée, des effluves écœurantes et envahissent les alentours du camp. Bien sûr, ils se doutaient de l'horreur derrière les barbelés. Mais c'est si facile de dire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Bien difficile, donc, à l'être humain de rester éveillé. Mais en fait, c'est un choix incontournable dans ce que nous avons entendu ce matin. Ce choix de rester éveillé, lui seul, nous permet de ne pas sombrer dans le monde de la peur. Ce choix de rester éveillé, lui seul, nous permet, selon les mots de Christ, de se tenir debout et de donner ainsi un sens au monde où nous vivons. Mais attention aussi de ne pas nous laisser prendre au piège des faux semblants. Par exemple, à notre sens, se tenir debout n'a pas grand-chose à voir avec un prosélytisme caricaturé, à bon escient, à bon sens, nous semble-t-il, dans le film que vous avez sans doute vu, « La vie est un long fleuve tranquille ». Souvenez-vous, Jésus revient. Eh bien non. Jésus ne revient pas pour la simple et bonne raison qu'il est déjà présent en nous, il est déjà parmi nous, et que nous vivons sa résurrection à chaque instant, et surtout en cet instant. Se tenir debout est en réalité simple, limpide, intime. Il s'agit simplement, uniquement, de laisser rayonner la lumière que le Seigneur nous a donnée et qui est présentée dans le texte de Jean que nous avons proposé au début. Cette lumière, nous la connaissons tous, car elle est en nous. Elle est la source de notre vie d'homme et de femme. Elle est notre vie quotidienne, au jour le jour, riche de tout ce que nous avons pu connaître, vivre ou espérer. Il s'agit uniquement, simplement, profondément, de la transmettre et de la donner. En surmontant crainte, méfiance instinctive de l'autre, de l'inconnu. Luc 8, chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ni ne la met sous le lit, mais on la met sur un porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Se tenir debout, et c'est donc la bonne nouvelle de ce dimanche de l'Avent, c'est donc porter la part de lumière, aussi modeste, aussi timide, aussi intime soit-elle, que Dieu nous a confiée, qui existe en nous, en chacun de nous, et qui nous demande de faire vivre. Alors, par la puissance de l'Esprit, tout prend sens et rayonne. Nous sommes alors, en fait, stupéfaits devant ce qui se passe, ce qui change, ce qui advient soudainement. Que ce soit dans les gestes les plus simples, comme dans les actions les plus graves, dans le simple coup de main pour aider, dans le conseil riche de lucidité et de bienveillance, dans l'acceptation calme ou moins calme des problèmes, des difficultés, dans l'espérance maintenue, dans le courage, dans la solidarité partagée, dans le regard fraternel, dans la présence de l'autre qui vous offre lui aussi sa lumière. Alors, nous connaîtrons une paix profonde parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec les autres, et que nous tenons debout devant le Fils de l'homme, et c'est cela qui donne un sens au monde. Amen.